Le magnétiseur, sixième partie, le château des airs. L'orage était passé, et resplendissant de feu pourpré, le soleil couchant perçait les nombreux nuages qui, chassés vers l'horizon, se dissipaient en blanches vapeurs. Le vent du soir agitait ses ailes, et les flots de parfums exhalés des arbres, des herbes et des fleurs s'épanchaient dans l'air tiède et pur. À l'issue de la forêt, je vis étendu devant moi, au sein des prés fleuris de la vallée, le village dont le postillon m'avait signalé l'approche. Et le paysage était dominé par les tours gothiques du château, dont les croisées étincelaient aux rayons du soleil, comme si des flammes allaient s'échapper de l'intérieur. Un son de cloche et de chant d'église parvint à mes oreilles, et j'aperçus dans le lointain un cortège lugubre qui s'avançait sur la route du château au cimetière. Lorsque j'arrivai à cette place, les chants avaient cessé. Suivant l'usage du pays, on avait découvert le cercueil déposé près de la fosse, et le pasteur prononçait un discours funèbre. Comme il se préparait à refermer la bière, je m'approchai et je regardai le mort. C'était un homme fort âgé, et à son visage serein et nullement décomposé, on aurait pu croire qu'il sommeillait paisiblement. « Voyez, de quel doux repos jouit notre vieil ami Franz !» s'écria avec une émotion profonde un vieux paysan. « Que Dieu m'accorde une fin aussi pieuse !»« Oui, bienheureux, ceux qui s'endorment ainsi dans le Seigneur !» Ce dernier adieu me sembla valoir toute la cérémonie consacrée aux défunts, et je vis dans les simples paroles du paysan la plus sublime raison funèbre. On descendit le cercueil, et lorsque les mottes de terre commencèrent à le recouvrir en rendant un son sourd, la plus amère tristesse s'empara de moi, comme si l'ami de mon cœur fût couché sous cette terre froide et insensible. Je me disposais à gravir la colline sur laquelle le château était situé, lorsque le pasteur vint se joindre à moi, et je m'enquis auprès de lui du mort qu'on venait d'ensevelir. C'était le vieux peintre Franz Bickert, qui depuis 3 ans habite le manoir des airs dont il était devenu le châtelain. L'ecclésiastique s'était chargé des clés du château jusqu'à l'arrivée du fondé de pouvoir du possesseur actuel, et j'entrais, non sans une angoisse pénible, dans les vastes salles où avaient autrefois vécu des hôtes joyeux et maintenant vides et silencieuses comme la mort. Kert, durant les 3 dernières années qu'il passa dans le château comme un ermite, s'était occupé de son art avec une singulière activité. Sans la moindre assistance, pas même pour les préparatifs mécaniques nécessités par ses travaux, il entreprit de peindre dans le style gothique tout le premier étage dont il habitait lui-même une chambre, et du premier regard, on devinait d'étranges allégories dans l'assemblage fantastique qu'il avait fait des objets hétérogènes dont les ornements gothiques motivent l'emploi. Une laide figure de diable guettant une jeune fille endormie se trouvait surtout reproduite très fréquemment. Je courus dans la chambre de Bickert. Son fauteuil était encore à 2 pas de la table sur laquelle on voyait un dessin commencé, comme si le peintre venait de quitter à l'instant son travail. Sur le dossier du fauteuil pendait sa redingote grise et un petit bonnet gris était à côté du dessin. Il me semblait que j'allais voir entrer le vieillard avec ce visage affable et bon, où les souffrances même de la mort n'avaient point laissé de traces, et prêt à accueillir dans son atelier le visiteur étranger avec une cordiale franchise. J'exprimai au pasteur mon désir de demeurer plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être dans le château. Il parut surpris et me dit qu'il était bien fâché de le pouvoir souscrire à mon envie, attendu qu'on devait apposer les scellés judiciaires en attendant l'arrivée du fondé de pouvoir et qu'aucun étranger ne pourrait même entrer dans le château. Et moi, si j'étais le fondé de pouvoir lui-même, lui dis-je en lui présentant une procuration fort explicite du propriétaire actuel, le baron de F. Et il ne fut pas médiocrement étonné, et il me combla de marques de politesse, et pensant qu'il ne conviendrait pas de demeurer dans le château des airs, il m'offrit une chambre au presbytère. Je refusai. Je restai dans le château, et c'est là que les papiers laissés par Bickert me fournirent de quoi occuper mes loisirs de la manière la plus intéressante. Je ne tardai pas à découvrir deux feuilles détachées où, dans ces notes brèves et jetées au hasard comme celles d'un agenda de poche, je trouvai la clé de la catastrophe qui anéantit une branche entière d'une famille importante. Tout s'expliquait par le rapprochement des détails contenus dans un manuscrit passablement fantasque, précédé des mots « songe, mensonge » et dans deux fragments de lettres qu'un accident particulier dut faire tomber entre les mains du peintre.